Lecture d'un extrait de Le droit dans la saga Harry Potter, publié dans la collection Le meilleur du droit chez Henrik B. Éditions. Recueil dirigé par Valère Ndior, professeur de droit public à l'Université de Bretagne occidentale, spécialisé en droit international public. Et Nicolas Rousseau, inspecteur des finances publiques, chargé d'enseignement en droit public. Résumé du présent ouvrage. Le serment inviolable est-il un contrat comme les autres? Le mange-magot respecte-t-il le principe du contradictoire? Les dispositions contenues dans le Code international du secret magique ont-elles une portée contraignante? Le recours au sort impardonnable est-il toléré durant la bataille de Poudlard? Et si finalement la saga emblématique créée par l'autrice britannique J.K. Rowling n'était qu'un immense terrain de jeu, de Quidditch, pour les juristes? Plus qu'un arrière-plan aux péripéties du jeune sorcier et de ses compagnons, cet univers met en scène une communauté qui dispose de ses propres us et coutumes, législations, institutions et organes, modes de règlement des différends et mécanismes de sanctions. En somme, une nouvelle raison de se passionner pour la communauté des sorciers. Le présent ouvrage, aboutissement d'une réflexion collective initiée en 2015 par une vingtaine de juristes universitaires et praticiens, présente des facettes discrète, voire ignorée, de la saga, afin d'en déceler toute la magie juridique. Les contributeurs et contributrices mobilisent tour à tour le droit français, le droit britannique, le droit international et le droit fictif créé par J.K. Rowling pour mieux faire redécouvrir au lecteur la richesse de la saga. L'état d'urgence de Bérangère Taxil, professeur de droit public à l'université Molle du Danger, membre du collège magique Jean Bodin. Au cours de ses premières années à Poudlard, Harry Potter est peu familier des disciplines juridiques non enseignées à l'école. Il ne rencontre ni gendarmes, ni tribunaux, ni juges, tant l'ordre social est relativement paisible. Les menaces principales qu'il affronte sont avant tout celles de maléfices et de contre-maléfices mal utilisés par des élèves débutants ou facétieux. Le droit est une ombre vaguement fantomatique, étrangère au lecteur, qu'il soit moldu ou sorcier. La magie serait-elle par nature inconciliable avec l'idée du contrat social ou de l'état de droit? Nullement, car il existe bien un ordre juridique sorcier, des sources et des sujets de droit, des organes du pouvoir. Pour autant, soyons clairs. Le monde cher aux fans de J.K. Rowling n'est pas un état de droit. Dès l'origine, le monde magique repose sur un postulat fondamentalement vicié, celui du développement séparé entre deux peuples. On peut y voir une forme d'apartheid, au sens littéral du terme afrikaner. On peut y ajouter la légalité de l'esclavage, des elfes de maison et des discriminations raciales, envers les elfes ou les géants notamment. Certes, il existe d'autres sources écrites de droit, et des usages probablement qualifiables de coutumes par les experts de la common law, dont nous ne sommes pas. Le Code international de la magie de 1689 pose les bases de cette coexistence et peut être qualifié de contrat social international. Des lois sont mentionnées ici et là. Néanmoins, il n'existe pas de séparation des pouvoirs. Le redoutable ministère de la magie concentrant l'ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Voir les contributions dans ce même livre d'Antoine Jamet et Nicolas Rousseau. Point de la Magna Carta ou de la Charte des droits fondamentaux d'inspiration libérale. Point de justice impartiale et indépendante chargée d'en garantir le respect effectif. Or, l'état d'exception, qu'on désigne ainsi l'état d'urgence, de siège ou de guerre, ne saurait exister que par rapport à l'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'exception, qui perd son caractère juridique au profit de la seule puissance. Chez les sorciers, on se trouve alors plutôt, même dans les temps ordinairement magiques, en situation permanente d'exception. Le vocabulaire et les concepts moldus liés à l'ordre public, y compris les plus britanniques d'entre eux, ne sont pas diffusés dans le monde des sorciers. Nulle référence, d'une part, aux termes d'ordre public, de droits fondamentaux, de restrictions légitimes et proportionnées, de procès équitables, nulle mention, d'autre part, des mesures de lutte contre les menaces à l'ordre public, si familières désormais pour nous, pauvres moldus. Ne cherchez pas les expressions d'assignation à résidence, de perquisition, à l'exception près lorsque M. Weasley perquisitionne le domicile des Malfoy, tome 6. Ni d'émeutes, d'insurrection ou de terrorisme. Pas de danger public menaçant l'existence de la nation, encore moins d'état d'urgence. Cependant, si les mots n'y figurent pas, les choses y sont, autorisant la comparaison entre notre droit et le leur. l'ordre sorcier est par essence en état d'exception permanente, qui réduit les droits des citoyens au nom de la protection de l'ordre public. Puis, de cette protection de l'ordre public, on dérape vers une lutte erratique contre les menaces graves pour la nation. C'est alors que le monde des sorciers connaît l'état d'urgence, l'état de siège, puis l'état de guerre. Le système devient de plus en plus répressif, au point qu'on peut alors le qualifier d'état terroriste. Première partie, un état d'exception permanente. Le droit est exceptionnel, même pour les temps ordinairement magiques. C'est qu'il convient d'assurer la protection d'un ordre composé de plusieurs nations par des restrictions légalement définies aux droits fondamentaux. Toutefois, quelque légitimes que soient ces limitations, elles révèlent de l'état d'exception. Dans un ordre moldu, peut-être serait-elle jugée excessive, mais pour cela encore, eût-il fallu qu'elle fût contrôlée. Or, chez les sorciers, les sanctions de violation du droit sont pour le moins discrétionnaires et ne font guère l'objet de contrôle administratif ou judiciaire. Partie A, la protection légitime d'un ordre public protéiforme. L'état de droit, dans la logique des sorciers, est caractérisé bien plus par le maintien de l'ordre public commun que par la protection des droits individuels ou d'une démocratie pluraliste. C'est donc un intérêt général, inhérent au contrat social magique qui prime. L'encadrement juridique est minimal, mais loin d'être inexistant, reposant sur le Code international de 1689 et un ensemble de lois et règlements non codifiés. La finalité protectrice des communautés est bien présente. Cela assure une légitimité à la limitation des droits et des libertés. En effet, cette légitimité, quoique implicite, est à l'origine réellement fondée et perceptible. Reposant sur un dogme de nécessité, maintenir les moldus dans l'ignorance du monde magique, la protection est double. D'une part, il s'agit de protéger les biens et personnes moldues. Cela implique des limitations indispensables à la liberté d'expression des sorciers. Ne pas dévoiler le secret. Et surtout, l'absence d'une véritable liberté d'aller et venir. La réglementation des moyens magiques de circulation est très fournie. À cette fin, il existe un régime draconien pour la vie privée des mineurs. La majorité étant fixée à 17 ans. La trace permet aux autorités de savoir en permanence et instantanément si l'un d'entre eux a recours à la magie. Cette emprise ne concerne pas les adultes, qu'on ne peut tracer. CF, tome 7, chapitre 9. C'est aussi plutôt dans l'intérêt des moldus que les tapis volants font l'objet d'un embargo aux États-Unis, voire tome 4, chapitre 7, et que l'élevage des dragons est interdit. Début de citation. Mais c'est contraire à nos lois, fit remarquer Ron. L'élevage des dragons est interdit par la Convention des sorciers de 1709. Tout le monde sait ça. Comment veux-tu qu'on arrive à cacher notre existence aux moldus si on garde un dragon dans son jardin ? En plus, ils sont impossibles à dresser, c'est très dangereux. Fin de citation. Tome 1, chapitre 14. D'autre part, il s'agit de protéger l'ordre public magique, les restrictions étant multiples. D'abord, la liberté d'aller et venir est limitée pour la propre protection des sorciers. Dès son premier dîner à Poudlard, Harry Potter apprend que la forêt entourant l'établissement est interdite. Voir tome 1, chapitre 7. On saura plus tard que des créatures dangereuses à quatre pattes comme à huit, y vivent. Ensuite, l'usage de la magie est très réglementé. La magie « normale » est interdite aux sorciers de premier cycle en dehors de l'école, voire tome 3, chapitre 2. Elle l'est aussi à tous les élèves de Poudlard, quel que soit leur âge, pendant les vacances, voire tome 1, chapitre 17. Ensuite, et surtout, la magie noire fait l'objet d'un régime d'interdiction très complet. Du droit à l'éducation, la consultation des livres de magie noire est interdite, sauf exception dûment motivée aux élèves de Poudlard, voire tome 1, chapitre 12. Jusqu'au droit des successions, les legs par testament d'objets de magie noire sont interdits, voire tome 7, chapitre 7. Partie B, des sanctions discrétionnaires non contrôlées. D'autres, dans le présent ouvrage, soulignent l'absence de contre-pouvoir, de garde-fous et de contrôle des actes des autorités publiques. Certes, une échelle réglementaire des sanctions existe, en cas de violation des lois et coutumes magiques, gradation qui est probablement portée à la connaissance du public des sorciers. Ainsi, un premier usage illicite de la magie ordinaire expose à la réception d'une lettre officielle d'avertissement par le ministère, voir tome 2, chapitre 3. Une seconde violation risque de mener à l'exclusion de l'école. L'hypothèse d'un bannissement du monde des sorciers est même envisageable, voir tome 3, chapitre 3. Des sanctions disciplinaires pour lesquelles le ministre de la magie exerce un pouvoir direct sur les élèves des écoles de magie peuvent devenir pénales lorsqu'il est question d'usage de magie noire. En cela, le principe de l'égalité, nullum crimen nulla poena sine lege, qu'il soit administratif ou pénal, semble respecté. Néanmoins, on peut souligner deux limites importantes à cette affirmation. D'une part, les sanctions ne sont pas toujours appliquées. On ne compte plus les passe-droits octroyés à des fins personnelles ou politiques. La lutte contre la corruption et l'abus de pouvoir n'est pas au cœur du système. L'exemple le plus révélateur concerne Harry Potter lui-même, lors de son premier échange direct avec le ministre de la magie, venu l'entendre au champ de Ron Baveur. Début de citation. « J'ai violé la loi, » dit Harry, « le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle. « Voyons, mon garçon, nous n'allons pas te punir pour une petite chose comme ça, » s'exclama Fudge, en agitant son petit pain dans un geste d'impatience. « Ce n'était qu'un accident, on ne va quand même pas envoyer quelqu'un à Azkaban simplement parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon. » Fin de citation. Tome 3, chapitre 3. D'autre part, que dire du système pénitentiaire et du déroulement du procès qui y mène tout droit ? Le procès équitable est tout bonnement inexistant, surtout lorsqu'il s'agit des droits de la défense ou de l'indépendance des magistrats. On note aussi une étrange confusion entre procédure disciplinaire et procédure pénale, entre justice des mineurs et des adultes. Par ailleurs, les peines encourues et les conditions de détention révèlent indéniablement des traitements inhumains ou dégradants, menant les prisonniers à la folie ou au baiser fatal des détraqueurs. Châtiment pire que la mort, voir tome 4, chapitre 36. Ainsi, sauf faveur irrégulière, les condamnés semblent ne pas pouvoir recevoir la visite de leur famille. Voir tome 4, chapitre 27, Croupton, un temps pressenti au poste de ministre, rend visite à son fils à Azkaban. Dès lors, début de citation, la plupart des prisonniers passent leur temps enfermés dans le noir à marmonner des paroles dénuées de sens. Fin de citation, voir tome 3, chapitre 10. Et, début de citation, la plupart des prisonniers deviennent fous. Fin de citation, voir tome 4, chapitre 27. Enfin, les organes du maintien de l'ordre sont insuffisamment contrôlés. Les fameux détraqueurs, personnels simplement pénitentiaires, vont être érigés en force de répression à mesure que l'état d'exception sombrera dans la crise, puis dans la contre-insurrection armée, au motif d'une lutte équivoque contre des menaces à l'ordre établi. Les bases de cet état de faible droit est en état d'exception permanentes sont trop fragiles pour empêcher un basculement inexorable, progressif et attendu vers le risque totalitaire. Partie 2. De l'état d'urgence au terrorisme d'État. Historiquement, l'état d'urgence a été créé en France pour pallier l'indisponibilité interne d'une armée occupée à batailler à l'étranger. Aujourd'hui, face à une menace interne grave, il permet soit le recours à des forces d'ordre militaire, soit de doter les préfets de super-pouvoirs de police administrative, soit les deux. Toutes les caractéristiques matérielles de l'état d'urgence se retrouvent dans le contexte de renaissance des forces du mal. Lui manque l'essentiel. À la différence de nos systèmes moldus, l'état d'urgence, ici, n'est ni préalablement déclaré, ni encadré, ni contrôlé, et l'on glisse vers l'arbitraire. L'insurrection se transforme alors en résistance légitime à l'oppression d'un état terroriste. Partie A. L'état contre-insurrectionnel, un glissement progressif vers l'arbitraire. À l'aube d'une menace sourde, insidieuse, les finalités du maintien de l'ordre deviennent illégitimes et excessivement répressives. Les moyens mis en œuvre, les organes employés, révèlent bien un état d'urgence incontrôlé, se trompant de cible et d'objectif. Ainsi, En toute bonne foi, mais à tort, le ministère identifie une menace majeure en la personne d'un évadé de prison, condamné, à tort, pour un massacre commis par d'autres 12 ans auparavant. Des décisions exceptionnelles sont prises, jusqu'à prévenir le premier ministre britannique Muldoon lui-même. Dès lors, c'est l'escalade qui confond terroristes et résistants de la liberté. Après Sirius Black, Harry Potter, transformé en chef de milice subversive, en vient à être désigné comme une menace contre la nation lorsqu'il avertit le ministère du danger qui guette. Fin du tome 5. Les moyens classiques de l'état d'urgence sont déployés, des patrouilles policières se multiplient, on se tourne vers les forces civiles dotées de moyens de nature militaire, à mi-chemin entre nos vigipirates et sentinelles. Dans un premier temps seulement, les ordres du ministère de la magie prennent soin de souligner l'existence apparente d'une finalité légitime et du caractère temporaire, et donc proportionner des mesures prises contre la menace mal identifiée. Début de citation. Il est rappelé à notre aimable clientèle que, jusqu'à nouvel avis, des détraqueurs patrouilleront dans les rues de Pré-Hollard toutes les nuits à partir du coucher du soleil. Cette mesure, prise dans l'intérêt de la population, restera en vigueur jusqu'à la capture de Sirius Black. Fin de citation. Voir tome 3, chapitre 10. Puis, tout effort de masquer l'arbitraire disparaît. L'intrusion, dans de nombreux droits fondamentaux, de la vie privée à la liberté du commerce et de l'industrie, va croissant. On ne perquisitionne pas, on fouille, sans crier gare, jusqu'aux auberges les plus respectables, comme celle de Madame Rosemerta. Voir tome 3, chapitre 10. Or, ces missions de surveillance et de traque de l'ennemi public ne sont pas confiées à la brigade de police magique, organe ordinairement compétent, ni aux aurores, troupes d'élite. Ce sont les détraqueurs qui agissent, leurs prérogatives s'étendent ainsi progressivement pour passer du rôle de gardien de prison à celui d'une milice d'État, omniprésente et omnipotente. Ils sont ainsi postés tout autour de Poudlard, n'en franchissant pas le seuil uniquement du fait de l'opposition farouche de son directeur. Ils sont également autorisés à infliger des sanctions disproportionnées aux indésirables et menaçants, sans contrôle ni autorisation préalable d'un juge, avec le baiser fatal. Début de citation. On peut continuer à exister sans son âme, tant que le cœur et le cerveau fonctionnent. Mais on n'a plus aucune conscience de soi, plus de mémoire, plus rien. En plus, aucune chance de guérison. On existe, c'est tout. Comme une coquille vide. L'âme, elle, s'est définitivement envolée. Elle est perdue à jamais. C'est le sort qui attend Sirius Black. C'était écrit dans la Gazette du Sorcier ce matin. Le ministère a donné l'autorisation au détraqueur de lui infliger cet ultime châtiment si on le retrouve. Fin de citation. Voir tome 3, chapitre 12. La surveillance d'une partie de la population des sorciers a déjà été mise en temps ordinaire via la trace. Elle se développe. Le fichage de certaines catégories de sorciers semble être une méthode ordinaire. Le ministère possède la liste des animagus et de leurs caractéristiques, par exemple. Voir tome 3, chapitre 18. La multiplication des fonctions des détraqueurs les rend quasiment incontrôlables, malgré les dénégations du ministre de la Magie affirmant l'exercice d'un contrôle effectif sur eux. Voir tome 5, chapitre 8. Le ministère finit ainsi par perdre le contrôle de ses moyens et de ses organes. Partie B, État terroriste et résistance à l'oppression. L'histoire étant décidément cyclique, les leçons de la guerre passée ne sont pas tirées, qui ont vu le pouvoir faire appel aux forces d'élite et prendre des mesures radicales. Les aurores, chasseurs de mages noirs, troupes d'élite respectées, étaient autorisés à perquisitionner à tout moment et à tuer des géants, des mange-morts, etc. Les sortilèges impardonnables étaient devenus licites dans le cadre de la lutte contre Voldemort et les forces du mal. À l'époque contemporaine de Harry Potter, le conflit armé n'est ni immédiat ni ouvert. On s'y dirige. Pendant plusieurs années, on assiste à l'affrontement entre, d'un côté, un État qui utilise les moyens de la terreur et de l'Inquisition, et de l'autre, des milices autoconstituées, aussi bien par les élèves de Poudlard, la D, armée de Dumbledore, que par les adultes, l'Ordre du Phénix. Tous recourant à des techniques bien connues de résistance à l'oppression, contournant les règles policières devenues illégitimes. Les terroristes des uns sont les résistants de la liberté des autres. Si aucune réflexion sur l'insurrection et la contre-insurrection n'est ouvertement menée, elle fait l'objet d'une brève incursion lors d'un cours. Hermione souligne, sans en tirer sur le moment toutes les conséquences, qu'un auteur dit, début de citation, que le terme de contre-maléfice est impropre et que les personnes donnent le nom de contre-maléfice à leur propre maléfice pour les rendre plus acceptables. Fin de citation, voir tome 5, chapitre 15. L'effondrement de l'ordre public s'accompagne de l'entrée en scène d'organes de répression particulièrement attentoires aux droits et aux libertés. C'est d'abord l'Inquisition qui fait main basse sur le système éducatif. Les décrets d'éducation du ministère de la Magie, sans plus d'efforts de légitimation, limogent des personnels de la fonction publique de l'enseignement, des professeurs de Poudlard, puis le directeur lui-même sont remplacés par des agents zélés du ministère. Dolores Sombrage, sous-secrétaire d'État du ministère, aperçue dans un procès disciplinaire mené contre Harry Potter, est nommée grande inquisitrice de Poudlard par le décret numéro 28, voir tome 5, chapitre 15. Et adopte châtiments corporels et autres mesures arbitraires de vexation et de sanctions au sein de l'école. L'atteinte est totale aux libertés de réunion, d'aller et venir, de penser, d'expression, de manifestation, de communication, etc. Elle en résume aisément la teneur en s'adressant à Harry Potter, sa cible privilégiée. Début de citation. Je vous avertis, j'ai derrière moi la puissance du ministère. Tous les moyens de communication de cette école avec le monde extérieur sont sous contrôle. Un régulateur du réseau de cheminées est chargé de surveiller tous les feux de Poudlard, sauf le mien, bien entendu. Ma brigade inquisitoriale ouvre et lit tous les courriers qui arrivent au château et qui en sort. Et Monsieur Ruzard observe tous les passages secrets qui mènent vers l'extérieur. Fin de citation, voir tome 5, chapitre 28. Hors l'école, la Société des Sorciers subit peu à peu les mêmes mesures de terreur qui la placent de facto en état de siège. Le réseau des cheminées est totalement sous surveillance. La liberté de la presse est supprimée. La Gazette du Sorcier devient un outil de propagande tandis que les rédacteurs, tentant de résister, finissent en prison. Xenophilius Lovegood, directeur du Chicaneur, voir tome 7, chapitre 22. La presse radiophonique, quant à elle, se réduit à une seule émission indépendante aux Actions londoniens de 1940, voir tome 7, chapitre 20. Au cours des deux dernières années, la mesure emblématique de l'état d'urgence semble quasiment permanente. Le couvre-feu règne, à l'école comme en dehors. Le combat entre les forces du mal de Voldemort et ses mange-morts, dotés de moyens ministériels, et l'armée de résistance aux côtés de Potter, fait sombrer les derniers bastions d'un état d'exception qui a totalement échoué. Suprême atteinte à la liberté, la loi rend l'école obligatoire. Début de citation. Avec la nouvelle loi, Voldemort pourra surveiller toute la population des sorciers dès leur enfance. Fin de citation, voir tome 7, chapitre 11. La discrimination raciale devient institutionnelle, seuls les sangs purs ayant accès à l'éducation. Progressivement, le droit et l'ordre social ont ainsi cédé la place à une force néfaste et obscure, qui marque son empreinte jusqu'au slogan inscrit au sein même du ministère, la magie et puissance. Voir tome 7, chapitre 12. Lorsque la puissance du droit résidant dans sa légitimité sociale est insuffisante, c'est le droit de la puissance qui occupe le terrain. Et on ne vous dira pas que tout est bien qui finit bien.